événement historique, je vous l'ai décrit assez suffisamment, au pied du Sinaï, se passe un dévoilement à Israël de quelque chose d'inattendu. Hein, d'où conflit avec Moïse, et d'où cette exhortation de Moïse à Israël qui est permanente. Attention, n'oublie pas cela. Shema, Hachem est Eloke Israël, Hachem Eloke Moshe, Echa, c'est le but. Ça va jusque-là? Bon. Alors on aborde maintenant la troisième lecture. Alors vous ouvrez votre livre avec Rachid, nous allons suivre avec Rachid. C'est le chapitre 4, verset 6, le chapitre 6, verset 4. Non, c'est le chapitre 6, verset 4. Alors, je vous ai demandé d'explorer Rachid. Vous l'avez fait? Qui l'a fait?
C'était
chapitre 6, verset 4. Vous êtes Rachid. Je vous avais demandé de voir Rachid. Qui l'a vu? Non, on n'a pas eu le temps de le voir.
Avec Ben Admon.
Vous l'ouvrez un peu là. Alors, quelqu'un qui a bien ce machin en tête va le lire pour les autres. Vous ouvrez un petit peu le. Alors, tu es sur Rachid, tu peux. Mais tu lis Rachid, tu traduis.
Hachem Jérou et Nokénou, Ata, Noké, Ovde, Kochavim, Pour Ati, Liyot, Hachem Echad.
Très bien.
Alors, Hachem Jérou, Dieu qui est notre Dieu,
Noké. Non, Hachem.
Hachem.
Qui est
notre Dieu? Jérou et Nokénou, qui est notre Dieu? Maintenant, Attar,
maintenant.
Vélo est ok pour des Kochavim, Vélo est non le dieu des idolâtres. Ou a-t-il, Iot, il tend à être?
Non, il deviendra.
Il deviendra. Il deviendra. On a changé comme chez Neymar, car il
Jusque-là, explique ce que tu as déjà traduit. Comment Rachid nous fait lire le verset? C'est quel mot il explique?
Rachid.
Tu t'appelles déjà avec la liste, pas encore. Oui, comment
Pour nous maintenant il est éloqué nous et que pour les goyim il n'est pas et que
il ajoute une nuance éloqué nous
atteint maintenant
Hachem
pour nous maintenant
ça veut dire il faudrait dire que Hachem qui est déjà notre Dieu à nous sous-entendu et à nous seuls et pas aux autres Hachem Echad ça c'est pour le futur deviendra Hachem
Echad pour tout le monde.
Alors il y a une grande difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est notre Dieu et pas le Dieu des autres? Il y a d'autres dieux pour les autres.
Après, il dit qu'ils ne comprennent pas de la même façon. C'est pas la même langue. Ils ne parlent pas le même langage.
Oui.
C'est que.
Oui, alors explique.
C'est que. Ils voient des images avec Kadosh Baroukh Hou. C'est au Kochavim. Et qu'un jour, leur dieu se transformera en un. C'est-à-dire, les images, ils adhéreront à la
vérité. Disparaîtront.
Ouais, c'est ça.
C'est une des manières d'expliquer. Je pense que c'est celle que spontanément vous avez comprise par vous-même. Okay. Et je vous donnerai les deux manières. On va commencer d'abord par expliquer celle-là. C'est-à-dire que la grande différence dans la relation entre le Dieu unique et les nations, ou bien dans la relation des nations avec lui. Les nations ont projeté, chacune d'entre elles, une image qu'elles se font du Dieu unique, et ces images sont différentes. Et pourquoi ces images sont différentes? Parce que les nations sont différentes. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire la diversité des nations s'est projetée sur une réalité intermédiaire que j'appellerais le nom de Dieu, et non pas Dieu lui-même. Elles adorent un nom différent. Vous suivez? Et en fait, elles ont choisi de voir, à travers des manifestations de la nature, ce nom de Dieu. Et retenez bien cela, c'est que, à l'origine, toutes les grandes idolâtries, tous les grands paganismes sont des paganismes astrologiques. La manifestation de la volonté du Créateur gérant le monde à travers les phénomènes astrologiques. Et c'est une mentalité, pourrons dire, qui s'est perdue dans la mentalité moderne. Quoique, vous savez très bien que les modernes sont très travaillés par ces problèmes-là, essayent de retrouver ces religions astrologiques, chacune à sa manière. Il n'existe pas un journal populaire dans la culture contemporaine sans des horoscopes et des machines astrologiques. Là-dedans, il y a 99,5 de charlatans, et puis des petites choses de temps en temps, qui se rappellent quoi que ce soit, mais une espèce d'industrie de charlatanisme des horoscopes, quelque chose de colossal dans la civilisation contemporaine. Vous avez remarqué ça. Et voilà donc une première manière de le comprendre. C'est-à-dire que chaque nation a un nom de Dieu différent. Et d'où vient cette différence? Elle vient du génie national. Mais je vous ai ajouté un principe important, ce sont les religions naturelles qui cherchent Dieu à travers la nature. Et il y a une espèce de fond commun du symbolisme du paganisme. Ce fond commun, c'est le symbolisme astrologique. Alors, puisque nous avons parlé de cela, c'est un thème que je vais déjà utiliser souvent dans les études postérieures, mais déjà un peu aujourd'hui. Très bien. Il ne faut pas tomber dans l'erreur qui consiste à nier l'existence de ces forces naturelles. Les forces de la nature existent, la lumière du soleil. Il y a par exemple un paganisme très très élémentaire qu'on appelle le naturisme, qui consiste à adorer la lumière du soleil avec sa peau. Il y a à peu près quelque chose de ce genre. Donc, ces forces existent, okay. Mais la grande différence entre la Torah et toutes ces religions naturelles, c'est que ces forces existent et conditionnent la vie humaine, et lorsqu'on se donne à cela, lorsque on se donne à cela, j'ai un peu parlé de cela un des derniers coups, alors on fonctionne comme un être de nature. Super. Tous les grands astrologues savent que l'horoscope, ça ne marche pas pour un juif qui va tout à l'heure. Et là, il y a deux choses parallèles. Dans votre expérience culturelle, vous découvrirez ces choses. Il y a deux choses qui ne marchent pas pour un juif qui pratique la Torah. Qui ne peut pas marcher. L'horoscope et... Je vais vous étonner, mais on parle des choses de la réalité ambiante, la psychanalyse. Et si ça marche, c'est que c'est peut-être pas un juif qui pratique la Torah. Non, mais les psychanalystes et les astrologues, ça se demande des difficultés insurmontables avec les juifs du Shoran.
Mais ça, c'est le problème de toute foi et de la psychanalyse.
Non, pas forcément. Je veux dire pourquoi. Il y a un peu de ça. Bon, le problème de la psychanalyse, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est trop à la fois. Mais. Oui, bah oui.
J'ai lu un livre d'Henri Barrault et on va l'expliquer assez bien.
Il est contre.
Il est contre. Il prend une autre religion, la psychanalyse.
Non, j'ai peut-être une imprudence de dire trois choses à la fois, mais il ne faut jamais trois choses à la fois. C'est un théâtre. Tout ça en même temps. Regardez, ce que je veux dire, c'est. Voilà un grand principe de l'objectif des numéros. c'est précisément de briser le déterminisme dont parlent les religions étrangères. Et ça veut dire que ce déterminisme existe. Et si on se laisse aller, il fonctionne. À la limite, vous avez ici une explication inattendue peut-être du phénomène de l'assimilation. Ça a l'air d'être une tautologie, comment dire, une vérité fataliste. Les juifs qui pratiquent les autres ne s'assimilent pas. Les juifs qui ne pratiquent pas les mitzvot s'assimilent. De quoi il s'agit de ça? C'est-à-dire que les mitzvot vont apparaître comme une sorte de protection contre cette influence des forces naturelles qui naturalisent l'homme et le font entrer dans une histoire qui fonctionne avec des conditionnements déterminés.
C'est-à-dire que les forces naturelles fonctionnent?
Hein?
C'est-à-dire
que les forces naturelles oui, chez les goïms, l'histoire des goïms sont soumis à des lois impitoyables, okay, qui leur donnent leur destin. La destinée d'Israël est autre parce qu'elle a la capacité de se dégager de ce destin. Et quel est le moyen? Les mitzvot. Je vous donnais un exemple, plusieurs coups de projecteur. Découvrez des manières de retrouver la réalité auxquelles vous n'êtes pas habitué. Et c'est au fond ça le processus d'hébraïsation dont je vous parle. La réalité dont nous parlons, elle est la même pour tous. Mais il y a une vision de l'hébreu qui découpe la réalité autrement. Et alors ça éclaire en particulier notre histoire, qu'aucun autre schéma n'arrive à éclairer. Si j'ose dire, nous avons un schéma Israël. Alors, pour revenir dans ce schéma Israël, voilà ce que je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est au fond de notre génération que les différentes communautés de la dispersion ont commencé à se connaître. Et alors, imaginez l'analogie, la similitude des juifs traditionnels du fond du Maroc ou du fond de la Lituanie, après 2000 ans de séparation, et la plongée dans deux mondes culturels radicalement différents qui n'ont rien à voir. Parce qu'un Marocain, c'est pas un Russe, et un Russe, c'est pas un Marocain. Et voilà qu'un Juif marocain du ghetto, ou un Juif du ghetto, c'est la même personne, 2000 ans après, avec des petites nuances, enrichissantes d'ailleurs de folklore, mais qui sont complètement superfétatoires. L'essentiel, c'est le même homme. Donc, c'est inouï, incompréhensible, d'après les lois du fonctionnement des sociétés. Quoi a préservé ça, le jour en avant? C'est vrai? Nous avons tout problème. Et dès que le Shulchan Aruch n'est plus pratiqué, on s'assimile, les juifs s'assimilent au paysage ambiant. Et alors le juif marocain devient de plus en plus marocain, et puis le juif russe devient de plus en plus russe. Et puis ils ont entre eux les problèmes des Russes et des Marocains. Avant, il n'y avait entre eux, Dieu préserve, que les problèmes des juifs entre eux. Donc vous comprenez la question. Et en particulier, nous verrons que toutes les mitzvot ont cela comme objectif. Et c'est une sorte de maguen, de protection, et aussi d'arme de rupture de ce déterminisme astrobiologique. Bon, c'est un peu inattendu pour vous, alors laissez-moi expliquer. Mais en particulier, il y a certaines mitzvot que la Torah appelle signe de l'alliance. Alors ces mitzvot-là sont les mitzvot. Je ne vais pas dire toutes les mitzvot sont fondamentales, chacune à son niveau. Ce sont les mitzvot sine qua non. Comprenez? En particulier, nous verrons qu'il y en a trois qui sont appelées de façon très claire signe de l'alliance. C'est la circoncision, le Shabbat et les tefillin. Et les tefillin, ça veut dire tout le calendrier. J'attendais ta réaction. Bon. Et nous verrons de quoi il s'agit. Et effectivement, dans une famille juive, où c'est plus pratiqué, l'identité juive se dilue, elle n'a plus de protection, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, parce que c'est une identité inassassinable. Rappelez-vous l'exemple des juifs russes, okay, dont on a parlé en diaspora. Mais c'est, oui, la cachoute aussi. Mais tout de l'histoire.
Non, mais je veux dire
dans les trois. Pas vous. On se rattache pas au patriarche. Et avec Jacob, c'est la cachoute. Avec Abraham, c'est la science. Bon. Mais je vous dis les choses comme elles sont d'abord dans la forme. Là, vous avez haute vérité, le signe de l'alliance. Et en particulier, on étudiera la circoncision et se posera la question comment ça se fait que les femmes n'ont pas besoin de cela. C'est un autre problème. Et Vous rappelez que la racine de la transmission héréditaire de l'identité juive, ça passe par les femmes. Et là, je reviens au problème, c'est l'objectif de toutes les luttes. Et voilà un exemple, si vous voulez, de cette question. C'est-à-dire que les goïms ont finalement une relation à Dieu qui passe à travers la nature. Et cette relation les conditionne à la manière du conditionnement des lois de la nature qui sont une détermination. Et elle rentre dans un cycle naturel. Okay. Là, on retrouverait, rappelez, je vous ai critiqué l'expression histoire naturelle, une contradiction dans les termes. On dirait à la limite, par façon de parler, que les nations ont une histoire naturelle. Et effectivement, nous voyons que les nations ont une histoire qui est toujours bâtie sur le même type que le Midrash appelle le rythme du soleil, c'est-à-dire une naissance, une apogée, un éclair, une disparition. Alors que, et avec, si vous voulez, une relation à un paysage bien particulier. Alors que ces règles-là ne jouent pas pour Israël. Tout se passe comme s'il y a une force de dégagement de ce conditionnement des religions astrologiques. Retenez bien cela, la Torah tout entière a été donnée contre la religion astrologique par excellence qui était celle de l'Égypte. Vous vous rappelez de... On comprendra que ça veut dire la sortie d'Égypte. C'est la sortie du conditionnement astrologique. Et nous retrouvons ça à propos de l'histoire d'Abraham. Le Midrash, certains d'entre vous connaissent peut-être, montre bien, à partir d'un verset qu'on étudiera en détail, que tant qu'Abraham est soumis à son conditionnement astrologique, là où il se trouve, il ne peut pas avoir de descendance. Il faut briser cela pour que l'histoire recommence. Retenez le principe. Qu'est-ce que je voulais expliquer? C'est que, bien entendu, ces forces dont les païens parlent sont des réalités, mais sont des réalités secondes de l'ordre du fonctionnement de la nature. Et qu'elles sont réelles, et que c'est bien parce qu'elles sont réelles qu'il faut les rompre. Attendez une minute, on me pose. Comprenez d'abord le principe qui apparaît là. Okay. Peut-être que vous entendrez même des rabbins dire pour l'histoire dont parlent les païens, ça n'a aucun sens, de quoi ils parlent. Rappelez-vous la lumière du soleil. Les modernes ont perdu conscience, pas seulement science, de ce dont les idolâtres parlaient. Et beaucoup de modernes qui sentent qu'il y a là un manque, un trou, quelque chose qui manque dans la culture, recherchent ces espèces de traditions anciennes, de ces forces cosmiques dont parlaient les grandes idolâtries, les grands paganismes. On va résumer ça dans une phrase. C'est vrai qu'il y a un fonctionnement du monde qui détermine l'histoire de l'être vivant. Alors, vous découvrez quelque chose d'important. L'objet de la Torah, c'est de briser ce déterminisme pour libérer l'homme de ce conditionnement naturel. Alors, ça vous explique la dimension d'éternité d'Israël. Je traverse le temps, alors toutes les autres civilisations, c'est le temps qui les traverse.
En vrai, je veux dire plus.
C'est le temps qui est. Je veux dire, ici s'ouvre un thème que vous pouvez exploiter pour lui-même. Il y a une lutte entre le temps et l'homme. Ou bien l'homme est plus fort que le temps, ou bien le temps est plus fort que l'homme. Vous voyez que dans ce problème-là, le temps mène à la mort, à la dégradation. Et vous voyez que dans ce problème-là, Israël est un cas particulier. Israël a une dimension déterminée, ça veut dire plus fort que le temps. Et alors ce qu'il faut découvrir, ce qui allait de soi dans la mentalité traditionnelle, c'est que là, le levier de cela, c'est la possibilité. Monsieur?
Alors, d'une part, la Torah, c'est la liberté pour les Juifs, et d'autre part, les Juifs n'ont pas vraiment de liberté.
Et c'est ce qu'ils disent dans leur liturgie. Hein. Okay. Il y a une sorte de d'asservissement à un type de conditionnement naturel qu'ils reconnaissent comme principe de divinité pour eux. Mais retiens surtout la première partie de ta phrase. C'est un Midrash qui dit très clairement. La pratique de la Torah libère des conditionnements naturels.
D'autre part, que pour commencer à avancer, il faut assumer son passé, entre autres ses parents. Oui. Alors quand on se doit ce travail d'assumer les parents, un temps de se dégager d'eux. C'est énorme.
Enfin, tu as fait une relation entre deux choses différentes. Quand je t'ai parlé de ces conditionnements naturels, Pourquoi tu as parlé, tu as pensé aux parents?
Parce qu'il y a eu psychanalyse avant.
Ah ben.
Que le travail de la psychanalyse est justement le
prendre
à assumer les parents qui sont des parents qui ont un problème. Donc de commencer véritablement à marcher.
Alors je n'ai pas compris, tu veux dire que l'objectif de la psychanalyse que tu connais, oui. C'est de rompre avec les parents?
Non, oui, j'ai dit non. Alors, de les assumer, et en les assumant, on a
bon, tu parles de l'Oedipe.
Entre autres.
C'était pas exactement comme ça. Il s'agit d'élucider ce qui s'est passé dans les trois premières années de la vie de l'enfant. Et bien entendu, dans les trois premières années de la vie de l'enfant, il y a tout un, comment dire, un asservissement à des conduits de relations parentales. C'est le thème du cordon ombilical qui va finir par couper. Mais entre faire corps avec les parents et les reconnaître comme tels, les assumer dans le sens que c'est très différent. Laissons, si vous voulez, pour provisoirement le problème de la psychanalyse de côté, je veux d'abord parler des conditionnements proprement naturels qui fait que chaque nation a l'identité qu'elle a. Une espèce de conditionnement par le paysage. Je me rappelle d'une question de toi, ok? Et un des derniers cours, sur la théorie des climats. Je me rappelle, c'était toi. Et je vous conseille vraiment de lire attentivement Montesquieu. Parce que vraiment, c'est un livre très fort et qu'il faut lire avec sérieux. Il y a un conditionnement par le paysage. On va faire un petit peu d'étymologie. D'ailleurs, l'étymologie du mot païen vient de là. L'étymologie du mot païen, ça veut dire l'homme d'un pays, d'un paysage bien précis. Paysan, païen, était équivalent dans l'ancien français. C'est-à-dire, il y aurait énormément de textes déjà dans la Torah qui montrent que le cas particulier d'Israël, de la terre d'Israël, c'est qu'elle n'est pas soumise à ces déterminations. Je donne ça comme principe, et vous l'apprendrez vous-même. Regardez ce tout petit pays qui est une sorte de micro-univers, qui renferme tous les climats et tous les paysages. Et tous les paysages humains à la limite. Quand vous connaîtrez concrètement la géographie de l'État d'Israël, vous aurez cette surprise-là, un tout petit pays, mais où il se passe quelque chose de différent du point de vue de la relation à la Terre. Regardez, je vais donner simplement un autre exemple qui est celui de Jérusalem. Vous baladez dans Jérusalem, vous changez de rue, vous changez de monde, vous remarquez ça. C'est quelque chose qui frappe tout le monde et qui a en lui-même une signification extrêmement importante. C'est culturel, mais c'est culturel profond, si j'ose dire. Voilà, c'est un état de fait. Un état de fait, voilà comment cette ville se constitue. Je vous conseille de visiter les quartiers qu'il y a autour de l'école. Baka, Katamon, mais l'ancien Katamon, pas les nouveaux, les casernes qu'on a construites pour les hommes. Pas les nouveaux Katamon. Katamon, c'est un chiffre moderne, mais l'ancien quartier de Katamon, et surtout Baka. Baladez-vous dans les petites ruelles de Baka. Vous verrez que vous sortez d'une rue, vous entrez à travers une ruelle, vous allez changer d'âge, de siècle, de culture, de type, de... Mais c'est dans toute la ville. Et vous passez de d'univers à univers. Il y a quelque chose de ce genre un peu dans toutes les grandes capitales. Mais à Jérusalem, c'est avec une telle intensité, on sent qu'il y a une espèce de micro-univers. Et c'est comme ça dans tout le pays. Être israélien de Haïfa, être israélien de Tel Aviv, être israélien de Dimona, être israélien du Kibbutz, israélien du Galil. Mais c'est un tout petit pays. Je viens de dire mettre un français de Marseille, un français de. C'est d'accord, toutes les façons d'apprendre la vie artificielle. La vraie France, c'était l'île de France, et pas plus. Tout le reste, c'est un empire. Okay? Parce que les Marseillais n'ont jamais été français, à la manière dont les Flamands n'ont plus jamais. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, Israël, c'est Israël, et puis vous avez un micro-cosmos. Bon, mais c'est la Torah qui en parle comme ça depuis toujours. que tous les pays sont soumis à cette détermination des forces cosmiques que je vous appelle astrobiologiques, sauf que etc. Alors peut-être qu'il y a une indication pourquoi l'humanité entière est obsédée par ce pays-là. Pourquoi ce pays est appelé dans des frontières très précises, qui ne sont pas des frontières que les autres ont faites, Eretz HaKodesh. Il y a une espèce d'obsession de l'humanité entière, ce qui est le même. Vous avez remarqué ? C'est-à-dire des conséquences habituelles au caractère massif des phénomènes. Alors on revient un peu au sujet. C'est la relation à Dieu, pour l'égoïme, à passer par un intermédiaire de l'ordre naturel, des forces naturelles, auxquelles nous donnons un nom. Alors dans notre sens, il est bien évident que c'est ce Dieu unique qui s'adresse à Israël qui est derrière toutes ces aspects partiels par lesquels chacun des goïms, suivant son génie propre, le nomme. J'essaie de vous dire ça de cette manière-là. Et réfléchissez bien à cela, ne me faites pas dire des choses fausses. C'est-à-dire, ici, à ce niveau-là, nous pouvons avoir le concept éloquique au pluriel. Et vous voyez pourquoi il y a un pluriel, l'unité de Dieu qui éclate dans ce pluriel à travers le pluriel des nations. Alors, nous avons un autre verset, mais qui peut se rattacher au nôtre. Hachem, ou pas Elohim. Lui, c'est eux. Mais je ne peux pas dire l'inverse. Je ne peux pas dire que eux, c'est lui. Vous suivez? Vous avez bien ce principe. C'est-à-dire, chaque nation va avoir cette espèce de diaphragme-là. En disant, c'est lui, mon Dieu. L'intention, c'est d'aller jusque-là, mais ils sont bloqués là. Alors, pour la tradition de la Torah, lui, c'est aussi toutes ses forces, mais pas l'inverse. Ses forces, c'est pas lui. Donc là, il y a l'indice du fini, alors qu'il s'agit de l'indice de l'infini. C'est-à-dire, lui, c'est au-delà de tout cela. Et il y a un cas particulier là, je vais le mettre au milieu, Israël, pour qui il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de diaphragme. Alors, comment dire Hachem ? Hachem, qui est notre Dieu déjà à nous maintenant, mais pas encore, celui des goïms, parce que les goïms se sont mis un nom, diaphragme, qui a bloqué, deviendra un jour, ça veut dire tout ça disparaîtra. Quand ? Quand l'humanité s'unifiera. Alors toutes ces forces intermédiaires disparaîtront en tant que nom de Dieu. Elles ne disparaîtront pas en tant que force de la nature. Mais c'est de l'ordre du créé. Vous y allez. Alors là-dedans, c'est clair, ça. Tout le monde, vous voyez comment s'exprime Hachem. Hachem, qui est déjà notre Elohim, eh bien, est destiné à être Hachem Echad, ça veut dire pour tous. Quand les Goïms nous diront Shema Israël, Hachem Echad.
Mais avec tous les attributs, avec tous les noms, c'est
Hachem Echad. Je vais un peu paraphraser. Baruch, juste à un niveau très inférieur. Lui, c'est tout ça, et une infinité d'autres forces que les goïms ne connaissent même pas. Mais je ne peux pas dire que telle ou telle force, c'est lui. Parce que ça consiste à le définir dans une finition. C'est ce que nous appelons une idole. C'est-à-dire, dedans, il y a de la force divine, mais qui n'est que de la force naturelle. Mais ce n'est pas le vrai Dieu, créateur de toute chose.
Mais c'est un problème spirituel, ça.
C'est malheureusement plus qu'un problème spirituel.
Mais l'islam, tout ça.
Attends, l'islam, c'est un cas particulier, mais je vais vous parler du cas particulier du christianisme. Où le christianisme a érigé l'identité d'Israël comme intermédiaire divin. C'est pour ça que sur sa croix, elle met un juif. C'est l'identité d'Israël qui est pour elle le médiateur. Vous savez, c'est un cas particulier. Et attendez, c'est fini. Et ça vous explique pourquoi on les gêne sur terre. Parce qu'au ciel, c'est très bien, on est leur Seigneur. Mais sur terre, on les gêne. Tant qu'il y a des juifs sur terre, ils ne sont pas tranquilles. Alors ils s'arrangent pour nous envoyer au ciel. Bon, vous voyez à peu près le problème. Et alors, puis on verra aussi, je prépare le cas de l'islam, et ça retenait, qui a posé la question pour l'islam ? Oui. Retenez que c'est pour l'islam authentique, le véritable monothéisme musulman, il n'y a aucun intermédiaire. C'est bien la solution.
Donc il n'est pas parmi les nations ?
Non. Ni la chrétienté d'ailleurs, puisqu'elle a une place particulière. C'est-à-dire que sa divinité intermédiaire qu'elle appelle le Fils, c'est le peuple d'Israël, mythifié dans une figure mythique, qu'elle envoie au ciel, et vous rappelez que c'est Rome qui a fait ça. Bien.
Qu'est-ce qui reste pour les nations?
Hein?
Qu'est-ce qui reste pour les nations?
Le bouddhisme. Je veux dire, il reste toutes ces traditions qui se sont perdues en Occident depuis le triomphe du christianisme, mais ça a quand même assez tardé. C'était à peu près à la destruction des Templiers que les traditions occidentales ont fini par disparaître. Mais chacun des peuples de l'Occident avait son imagerie particulière de la divinité propre à sa nation. Le dieu des Gaulois, le dieu des Germains, le dieu des Latins, etc. Tout ça s'est perdu en Occident, mais...
un peu plus caché en ce moment, donc qu'est-ce que vous voulez dire
C'est pas évident. C'est pas évident. Lorsqu'ils étaient reliés au dieu unique par leur médiateur naturel, okay, c'était plus normal qu'avec le
christianisme.
Mais en tous les cas, il s'agit d'idolâtrie, il s'agit. Parce que nous verrons que le problème, c'est important, c'est le problème moral. Il y a une conduite morale différente suivant les divinités que l'on s'assigne, c'est-à-dire une conduite immorale
différente.
Bon, comprenez ce que veut indiquer Rashi. Que le vrai problème, ça je prends ta lecture, que le vrai problème, c'est le problème de la manière dont l'égoïme nomme le Dieu unique. C'est clair? C'est la première étude que nous avons peut-être, dont on aura la prochaine fois, parce que la prochaine fois je suis déjà plus là, mais on aura la fois d'après, parce que je ne veux pas les mélanger les deux. C'est-à-dire, j'explique à la manière dont Philippe a écrit.
Pour continuer, ce qu'on peut dire, qui a des forts, elle a un nid, sa femme est au roi.
On va voir les versets.
L'inversement, c'est parce que c'est une image, quoi. On peut se reporter à l'image qui s'inverse, pour ça qu'on inverse.
Non, à Zerpor. Ouais. Pour ici, ça veut dire déversé, pas inversé.
Ah, c'est pas inversé.
Versé, déversé.
Ah.
Le sens de inverser serait dérivé.
Parce que d'une image, l'image elle s'inverse, quoi. C'était pour la référence que vous avez la dernière fois avec Rennes et Noir dans la réalité.
Mais ça je joue pas ici.
C'était pas ça?
Non, ça joue pas ici. Ça joue pas ici. Et donc, je lis très rapidement, parce que c'est déjà l'heure, comment Rachid dit ces deux versets, c'est moi qui vais lire le point même pour aller. Vous avez vu dans quelle idée? Ça veut dire qu'il faut ajouter un mot. Ça veut dire Hachem, qui est notre Dieu déjà maintenant, sera reconnu comme Hachem Echad à la fin de l'année. D'après ce qui est dit, qui a Zerpor et l'ami, c'est le premier verset du chapitre 3 de Sophonie, le prophète Sophonie en français, qui a, car alors je verserai sur les peuples sa fabrouva, une langue épurée, micro koulam beshem Hachem, afin d'appeler tous, de nommer tous le nom de Hachem. Beshem, oui, Shimem, Beshem Hachem. C'est une question de nom. Venez, Marie, il dit aussi dans Zacharie, au chapitre 14, Bayomahou, en ce jour-là, il y a Hachem Echad, lui sera un. Le mot Yudkevaké que je lis par Hachem, lui sera un. Ushmo et son nom aussi sera un. Okay? Donc, je suis surtout le dernier verset. Il faut le dire comme ça. En ce jour-là, Dieu sera un comme il l'est déjà, mais nous seuls le reconnaissons. Et son nom sera un comme il ne l'est pas encore. Le nom n'est pas encore un, puisque chaque nation a un nom de Dieu. On a fait une remarque à ce sujet, je vous signale que ça a un certain intérêt, que dans toutes les langues, le nom, le mot Dieu a quatre lettres. Dans l'ancien anglais, il y avait deux D. God avec deux D. Oui, par exemple en français, mais ça vient du latin, qui vient du grec, il y en avait un, théos. On a fait cette remarque-là en fait. Comme s'il y avait une ancienne tradition que le nom de Dieu a toujours quatre lettres. Et ça veut dire donc que chaque peuple, à travers son équation personnelle, a donné au Dieu unique un nom qui est très partiel, qui représente la relation très particulière que Dieu entretient avec cette nation-là. Okay? Et dans ce monde-là, il y avait tout un panthéon de païens, de divinités cosmiques, en particulier de Demacour. Voilà, bon, c'est le nom de Chimacour. Et alors, le premier verset est très important, parce que le premier verset est au niveau du langage. C'est-à-dire qu'il y aura une élucidation du langage dans l'humanité qui fera que l'humanité, redevenue capable de la langue unique, sera aussi capable du Dieu unique. Mais vous voyez quel est l'écran de la pluralité des noms de Dieu actuels et qui renvoie donc à toute cette perception à travers les forces naturelles. Bon, très schématique. Alors, vous voyez, comment apparaît cette troisième lecture? C'est qu'à la fin des temps, lorsque les nations auront finalement élucider les problèmes de linguistique auxquels elles commencent déjà à être attentives. Vous avez remarqué l'importance que prennent les problèmes de linguistique dans la culture contemporaine. Okay. Et combien de juifs travaillent là-dedans? En particulier, c'est un problème structurel dont je vous parlerai un peu à nous. Beaucoup. Alors à ce moment-là, les nations pourront dire à Israël, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, celui qui était reconnu par son œuvre comme Dieu. Et maintenant, nous aussi, c'est le même.
Est-ce qu'on veut dire qu'il n'y aura plus mon Dieu?
Je vous ai déjà parlé de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus mon Dieu. Ça veut dire que ce qui fait que chaque nation est elle-même, qui est la cause des conflits de guerre et d'immoralité dans le monde, ça disparaît. Cette état de diaspora de l'humain.
On trouve la langue.
Et non, chaque nation peut garder son dialecte. Mais si elle a la langue unique, alors il peut y avoir une unité. Nous on parlait un peu de ça déjà. Et je pense que chaque langue, comme une des langues de l'humanité, c'est un enrichissement pour lui-même. Mais à condition qu'il ne fasse pas écran par rapport à la langue unique, qui empêche l'unité humaine. Ce qui empêche l'unité.
On va pas passer par la disparition de toutes les nations.
Par la disparition ? Je ne sais pas. Ça, quand on y sera, on verra. Il y aura des rescapés. Bien. Alors, on se voit après déjà.